Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi le pôle Nord est au Nord?
C'est une définition. Le globe est une sphère, plus ou moins, on va dire. Et puis, c'est le point le plus à l'extrémité de cette sphère. C'est les coordonnées géographiques. Et on fait la différence entre le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique, qui est une autre chose. Mais donc, on peut déterminer simplement par géodésie ce point si fascinant.
Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode où l'on va découvrir qu'on perd le Nord, dans une certaine mesure. Et où on va s'intéresser à ce que nous raconte le pôle Nord. Et puis, on se demandera si le pôle Nord et le pôle Sud sont diamétralement opposés. Notre guide dans ce voyage, c'est Samuel Jacquard. Il est professeur à l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Lausanne. Sa spécialité, les sciences climatiques. Et sa passion, les pôles. Et le pôle Nord, c'est bien plus qu'un point sur la carte. C'est vrai, c'est là où les méridiens et les fuseaux horaires se rencontrent. Mais les régions polaires sont fascinantes à bien des égards. La zone qui entoure le pôle Nord se situe dans l'Arctique, à l'intérieur du cercle arctique, à peu près au 66e degré de latitude nord. C'est une région immense, dont les frontières varient selon les définitions. On considère parfois que c'est la ligne des 10 degrés qui la délimite, 10 degrés, car la température moyenne annuelle de cette région ne dépasse pas les 10 degrés. Et parfois, on estime que le territoire arctique englobe toute la partie polaire du globe où le sol reste gelé en permanence. Mais tout cela, ce sont des lignes mouvantes sur les cartes. Et moi, ce que je veux savoir, c'est à quoi ressemble le pôle Nord. Microsciences, un podcast de la RTS.
On a décidé que c'était un endroit géographique. Et en fait, si on s'y rend, on peut s'y rendre à pied d'ailleurs aussi, ou à ski, on n'y voit que de la glace. C'est de la banquise. Après, l'étendue de glace couvre à l'heure actuelle encore 4 millions de kilomètres carrés, en tout cas en été. C'est de la glace qui se forme lorsque l'eau mer gèle.
Et donc, il n'y a pas de panneau qui montre le point exact de ce pôle Nord? Moi, je l'imaginais un peu comme ceux des randonnées en Suisse, avec des flèches jaunes qui indiqueraient toutes le sud.
Non, pas du tout. Donc, il faudrait avoir un GPS, en tout cas une bonne carte géographique pour trouver ce point, parce qu'il n'y a vraiment rien qui le caractérise autre que sa position géographique.
Et j'imagine aussi une immense patinoire blanche, avec des pingouins faisant des triples axels avec leur écharpe et leur bonnet.
Effectivement, c'est des étendues immenses de glace. En ce qui concerne le pôle Nord, elles sont assez plates. Évidemment, il y a des crevasses et quelques reliefs. Évidemment, c'est des étendues blanches englacées à perte de vue. Il y a souvent de la neige qui recouvre la banquise. Elle est relativement plane, en effet. Il y a effectivement quelques structures de peut-être quelques mètres de haut, mais c'est sinon assez plane.
Pas tout à fait une patinoire, mais une région assez plane, avec peut-être quelques pingouins, mais certainement pas de manchots, qui, eux, se trouvent au pôle sud. Mais ça, c'est une autre histoire. Une bonne partie de la région arctique est donc formée de banquises, de l'eau de mer gelée. C'est donc un glaçon immense, qui au demeurant n'est pas salé, car le sel reste dans l'eau de mer et seule l'eau douce se transforme en glace. Cette banquise, je l'imagine immense, à perte de vue. 4 millions de kilomètres carrés, c'est grand. Et je ne peux pas m'empêcher d'essayer d'imaginer son épaisseur.
Elle fait entre 2 et 4 mètres d'épaisseur, ce qui paraît ridiculement petit. On regarde en particulier de la profondeur de l'océan Arctique, au pôle Nord, qui fait entre 3 et 5 000 mètres de profondeur. Donc on peut imaginer que l'épaisseur de cette glace fait uniquement 1 millième de la profondeur totale de l'océan.
2 à 4 mètres d'épaisseur, une petite pellicule de glace sur un océan immense. Moi, je voyais cette glace aussi haute que des icebergs, qui peuvent atteindre jusqu'à 75 mètres de hauteur au-dessus de la mer et plus de 200 mètres de longueur totale. Mais non, la banquise ne fait que 2 à 4 mètres d'épaisseur.
On peut faire un trou avec une petite chignole et puis se retrouver dans l'océan Arctique.
On va éviter de sortir une chignole ou un vilebrequin tout de suite, car ça m'a l'air fragile cette affaire. Toute cette glace qui flotte sur la mer, ça doit bouger.
Alors oui, elle bouge. Le pôle Nord, c'est un point géographique qui ne bouge pas. Mais effectivement, la glace qui se trouve dans l'océan Arctique ou qui couvre l'océan Arctique, évidemment, elle se déplace au gré des vents et des marées et des courants océaniques principalement. La manière dont on peut l'imaginer, c'est une sorte de radeau qui flotte sur un océan immense. C'est un radeau qui prend l'eau, qui fond gentiment et qui va disparaître, en tout cas en été, d'ici la fin du siècle.
C'est dans cette immensité mouvante que se trouve le pôle Nord magnétique. Celui qui attire irrémédiablement l'aiguille de ma boussole. Et il ne se trouve pas exactement au pôle Nord, dans le sens géographique du terme.
Pendant longtemps, ces deux pôles ont été plus ou moins superposés. Et maintenant, on observe que le pôle magnétique se déplace légèrement. Et il y a une dizaine ou une vingtaine de kilomètres maintenant entre les deux pôles.
Et ce pôle magnétique, il n'a finalement pas de grand lien avec le pôle géographique.
Le pôle magnétique est lié en fait à des phénomènes qui se déroulent alors à l'intérieur de la Terre. Hein, c'est vraiment des phénomènes et des mécanismes qui sont complètement différents de ceux qui régissent l'extension ou non ou la fonte des glaces. Donc c'est principalement lié à la convection du manteau, donc qui se produit à peut-être 5000 km de profondeur dans le noyau terrestre. Donc c'est une géodynamo énorme qui donne naissance à ce champ magnétique. Et puis, en fait, on sait aussi de nouveau par l'analyse de sédiments marins du passé que ce champ magnétique a changé, s'est inversé régulièrement au cours de l'histoire de la Terre. Et si vous viviez à une telle époque, en fait, votre boussole indiquerait simplement le pôle sud.
Effectivement, si vous prenez une boussole, elle indique le pôle nord magnétique. Mais ce pôle nord, il bouge. On ne sait pas exactement pourquoi. Et c'est pour cela que la boussole qu'on ne regarde plus beaucoup est parfois imprécise. Le champ magnétique n'est donc pas notre unique repère géographique. Et dans nos vies modernes, les GPS, par exemple, corrigent cette imprécision pour pointer vers le nord géographique. Mais une autre vertu de ce champ magnétique, c'est d'être une sorte de bouclier pour la Terre et de la protéger contre les agressions du Soleil.
Il protège la Terre du rayonnement cosmique, oui. Et puis, lorsqu'il y a une inversion du champ magnétique, même si on comprend pas très bien les causes qui interviennent lorsque cette inversion se produit, on a une diminution très importante de l'intensité du champ magnétique pendant peut-être 100 ans ou 1000 ans avant qu'il ne s'inverse.
Et tout ceci n'a pas vraiment de lien avec notre climat.
Le noyau terrestre étant liquide, il y a une convection et cette convection, comme ce manteau, ce noyau et ce manteau terrestre contiennent beaucoup de fer. Il y a beaucoup des quantités énormes de fer qui sont en mouvement. Et ces mouvements induisent le champ magnétique terrestre.
Le pôle Nord et sa banquise arctique est frêle et il flotte. Le pôle Sud, lui, est diamétralement opposé.
C'est un continent en tant que tel, donc le continent antarctique, qui recouvre des millions de kilomètres carrés. Et ce continent est couvert de milliers de mètres d'épaisseur de glace. Comme c'est un continent, il y a des montagnes qui font plusieurs milliers de mètres de hauteur, qui d'ailleurs parfois sortent de la glace, qui ne sont pas couverts par les glaciers. Donc on a du relief en Antarctique, on n'a pas du relief dans l'océan Arctique, si ce n'est évidemment sous les océans.
Un continent qui, comme tous les continents, s'est parfois aussi déplacé.
Alors, le continent antarctique a dérivé comme tous les autres continents. On retrouve des fossiles de palmiers ou d'hippopotames même. Donc le continent antarctique s'est trouvé il y a des dizaines de millions d'années à une position plus équatoriale. On considère que le continent antarctique s'est englacé il y a à peu près 35 millions d'années. Et on pense que depuis il y a 35 millions d'années, les glaces ont augmenté ou diminué en fonction de l'évolution climatique. Mais on considère que le continent antarctique a été englacé de manière permanente, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, les deux extrémités de notre planète sont couvertes de glace. Mais où fait-il le plus froid ?
Il fait froid dans les deux pôles, je dirais. Il peut faire très froid en hiver au pôle Nord, des températures de moins 40, moins 50. Mais les températures les plus froides qui ont jamais été enregistrées, en tout cas sur ces derniers peut-être 100 ans, c'est en Antarctique. Et je crois, si je ne m'abuse, la température la plus froide qu'on ait jamais enregistrée, c'était moins 80 ou moins 85 degrés.
Moins 85 ? C'est revigorant. Mais pourquoi une telle différence entre le Nord et le Sud ?
Même s'il fait très froid au pôle Nord et en Antarctique, au pôle Sud, ce qui permet de réchauffer un petit peu l'atmosphère, c'est les océans. Les océans sont souvent à 2 degrés, 0 degrés, ce qui est évidemment plus tempéré que les glaces elles-mêmes. Donc plus on est loin du bord de mer ou du bord de l'océan, plus il fera froid. Et donc c'est un climat plus continental en Antarctique qu'au pôle Nord.
Et pourtant, l'Antarctique fond aussi.
On a toujours pensé que c'était l'Arctique, donc le pôle Nord qui fondait le plus rapidement. pour et on a toujours pensé que l'Antarctique était préservée de cette fonte accélérée, et on se rend compte maintenant que notamment la banquise fond aussi à une vitesse accélérée, notamment cette fois due au réchauffement des océans. Et les océans qui, en se réchauffant, vont faire fondre les glaces par-dessous, si je peux dire.
Bref, ça fond partout et par les deux bouts.
Donc là, on arrive à peu près à la fin de l'été, début de l'automne. Donc, c'est la période de fonte maximale en Arctique ou dans l'océan Arctique. Donc, c'est là, en général, fin septembre, début octobre, que la couverture de banquise est la plus faible. Les températures vont diminuer, la banquise va se reformer dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, à contrario, c'est l'été qui commence. Donc, effectivement, on a des enregistrements, des observations sur l'étendue de cette glace, qu'elle soit continentale ou océanique, hein, il y a aussi beaucoup de banquises en Antarctique, autour du continent antarctique. Donc on parle principalement de cette fonte de banquises. Et c'est vrai qu'en hiver, normalement, les glaces se forment, et c'est là qu'on a l'étendue maximale, mais on se rend compte que les océans se réchauffant, on a de moins en moins de banquises qui peuvent se former.
Et ça fond par le dessus aussi.
Alors c'est assez difficile de bien quantifier la fonte des glaces. Les satellites nous permettent de bien comprendre la diminution de l'étendue des glaces. Par contre, c'est très difficile d'en mesurer la diminution de son épaisseur. Parce que les satellites ou les observations aériennes ne permettent pas de mesurer, en tout cas de manière très précise, ce qui se passe dans sa profondeur. Donc c'est vraiment dans un premier temps difficile d'estimer clairement combien de glace ou le volume de glace qui est perdu chaque année. Comme on le voit en Antarctique, on pensait que le continent ou la calotte antarctique était relativement préservée d'une fonte accélérée. On se rend compte que c'est pas le cas. Ça a permis de mettre à jour des processus de fonte qui étaient méconnus jusqu'alors.
Deux horizons blancs, très différents, et pourtant si fragiles face à un climat qui se dérègle. Et ces deux pôles sont régulièrement sous la loupe des scientifiques.
Il y a toute une science qui s'occupe de travailler, de décrire les glaces, ces carottes glaciaires. Elles sont accumulées au cours du dernier million d'années. Et si elles ne sont pas déformées, en fait, on peut reconstruire l'histoire des précipitations, par exemple, mais aussi la concentration des gaz à effet de serre piégés dans ces bulles de glace. Et puis, reconstruire l'histoire et l'évolution de la teneur de gaz à effet de serre sur ce dernier million d'années.
Et la banquise, à part fondre, que nous raconte-t-elle? C'est aussi une machine à remonter le temps?
Elles font que 2 mètres d'épaisseur, c'est de la banquise, elles ne vont pas nous raconter une histoire très longue. En revanche, on peut aussi prélever des carottes glaciaires sur le Groenland, qui font plusieurs kilomètres d'épaisseur. Cela dit, l'accumulation de glace ou de neige sur le Groenland est beaucoup plus élevée qu'en Antarctique. Donc même si elles font à peu près la même épaisseur, l'histoire ou le laps de temps qui est encapsulé dans ces carottes de glace est beaucoup plus court. Et on considère qu'il y a à peu près 150 000 ans, lors du dernier interglaciaire, du dernier intervalle où il a fait chaud, une grande partie de la calotte glaciaire au Groenland avait disparu. Donc en fait, les glaces les plus anciennes qu'on peut trouver au Groenland, en tout cas à notre connaissance actuelle, font à peu près 150 000 ans. En Antarctique, donc les glaces continuent, il y a vraiment des enregistrements continus, c'est probablement un million d'années, mais on trouve de la glace qui date de 2-3 millions d'années dans certaines vallées sèches de l'Antarctique.
Elles n'ont l'air de rien, ces petites bulles d'air piégées dans la glace et dans les sédiments. Et pourtant, elles nous racontent ce qu'il peut se passer sur la planète si les gaz à effet de serre sont trop présents.
On considère que la banquise du pôle Nord, en tout cas, a occupé une surface importante seulement depuis à peu près 3 millions d'années. En fait, l'englacement du pôle Nord, que ce soit sur le continent ou sur l'océan, est lié aussi à une diminution des pressions partielles de CO2, donc des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Et on considère que si on se base en fait sur des données paléoclimatologiques, hein, que des glaces dans l'hémisphère Nord ne peuvent pas rester de manière pérenne au-delà de 400 parties par million, et c'est un peu le chemin qu'on prend, on a dépassé maintenant cette valeur-là. Donc au-delà de 400-450 parties par million de CO2, si on en croit les enregistrements paléoclimatiques, les enregistrements sédimentaires, en fait la glace ne peut pas exister de manière pérenne au pôle Nord, au-delà de ces concentrations qu'on va franchir allègrement ces prochaines années.
C'est donc une partie du passé de notre Terre qui fond. Et par moments, je me demande si cela vaut vraiment la peine d'étudier cette glace si elle disparaît, et que visiblement, on ne peut plus sauver la glace des eaux.
Alors, je ne sais pas si on ne pourra pas la sauver. J'espère qu'on pourra en sauver un petit peu, en tout cas. Eh bien, en fait, je pense qu'il est assez urgent de comprendre les mécanismes qui la font fondre de manière accélérée, pour mieux comprendre ces écosystèmes qui sont méconnus pour des raisons avant tout logistiques. C'est très compliqué d'y aller. On peut y aller pendant peut-être 3-4 mois par année. Le reste du temps, c'est compliqué. Donc, je pense que ça reste encore une frontière qui doit être mieux analysée, mieux comprise.
Il reste donc un espoir de sauver la glace ?
Il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre le plus rapidement possible. Donc, le réchauffement climatique est principalement lié à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos activités humaines. La seule manière de les sauver, au même titre que nos glaciers dans les montagnes, on a vu certaines initiatives qui couvraient ces glaciers avec des couvertures. Alors certes, ça va permettre de gagner peut-être 5 ou 10 ans, mais c'est vrai que seule une diminution drastique et concertée au niveau mondial permettrait de sauver les glaces en Antarctique et en Arctique. Peut-être pour les glaciers dans les Alpes, c'est déjà perdu.
Mais la banquise disparaîtra.
Donc le pôle Nord, pour le moment, est couvert encore de glace, de manière pérenne, donc toute l'année. Mais les modèles climatiques prédisent que d'ici la fin du siècle, ou peut-être même avant, on n'aura plus de glace du tout au pôle Nord en été. En hiver, il fera toujours suffisamment froid pour que la glace se forme, mais elle aura tendance à fondre très vite au printemps et en été.
Et cette disparition aura forcément un impact sur le reste du climat.
Ce qui se passe au pôle a des grandes conséquences, notamment sur la circulation océanique, sur la circulation atmosphérique au niveau global, et la présence ou non de glace va avoir des conséquences fondamentales sur la réorganisation, notamment des courants océaniques. Les glaces, elles sont très blanches, elles sont couvertes par de la neige, et ces glaces, en fait, elles réfléchissent une très grande partie de l'énergie solaire incidente. Je pense que peut-être 80 à 90% de l'énergie incidente est réfléchie au même titre qu'un, par exemple, un miroir. Lorsque l'océan n'est plus couvert de glace, l'océan est foncé, bleu foncé, et l'océan va pouvoir absorber, donc pas réfléchir, mais absorber une grande quantité de rayonnement solaire incident, et par conséquent se réchauffer de manière beaucoup plus importante. Donc ça a des très grosses conséquences pour le système climatique global.
En fait, la trajectoire même de la Terre sera influencée.
Et on peut imaginer qu'avec la disparition de la masse englacée et la redistribution de l'eau au niveau global, on peut imaginer que ça va influencer la vitesse de rotation de la Terre. Effectivement, probablement on ne le sentira pas parce qu'il s'agira de quelques millisecondes, j'imagine, mais ça aura une influence en effet.
Il est temps de prendre congé des minces pellicules de glace et du mouvement de rotation de la Terre. Si vous avez des remarques ou des questions, écrivez-nous à microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Si cet épisode et ce podcast vous plaisent, partagez-les sur vos réseaux sociaux préférés et abonnez-vous sur PlayRTS ou la plateforme d'écoute de votre choix.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne?
Pourquoi je dors?
Pourquoi je rêve?
Qui a inventé la seconde?
Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre?
Où va la lumière quand j'éteins ma lampe?
Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Ils sont la fraîcheur, les flocons bienveillants, les points cardinaux de Microscience, l'épaule fragile et solide à la fois. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice, elle donne toujours le nord. Jérôme Nussbaum, qui habille ce podcast en toute saison, c'est le sud. Mathieu Ramzaouar, réalisateur, clairement du Far West. Et moi, je viens de l'Est, Uma Camis, journaliste scientifique. Et une petite question me taraude encore. Si la banquise disparaît au pôle Nord, qu'adviendra-t-il du Père Noël ?
Alors, le Père Noël, effectivement, il habite et il travaille au pôle Nord. Et son habitat ou sa maison va tendre à diminuer, va fondre. Et il est envisageable que le Père Noël devienne lui aussi un réfugié climatique. En hiver, il restera bien au froid, il pourra continuer à travailler au pôle Nord, mais en été, il est possible qu'il doive s'expatrier, mais je ne me fais pas trop de soucis pour Père Noël, il trouvera probablement quelqu'un pour l'héberger.